Peut-être je me présente brièvement. Je suis Anne Nivard, je suis chargée de mission, notamment musée, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je remercie les organisateurs et organisatrices pour cette invitation, parce qu'on est peut-être un ministère un peu dans l'ombre, mais on a quand même des liens très forts, que ce soit avec le Muséum d'Histoire Naturelle, les collections qui sont conservées dans les universités ou les organismes de recherche. Et j'ai vu que le réseau... Géocollection les mobiliser grandement, ce qui est une très très bonne chose parce que les collègues, notamment en université, sont souvent très esseulés. Donc je vous remercie pour cette journée et c'est l'animation de ce réseau qui répond à des enjeux essentiels. On va commencer cet après-midi par une intervention de Véronique Rouchon. Faut-il encore présenter Véronique Rouchon ? Elle est donc professeure au Muséum national d'histoire naturelle, si vous ne le saviez pas. Je ne me lancerai pas dans la liste de tous ses travaux, mais elle est désormais aussi coordinatrice du département des restaurateurs de l'INP, ce qui est important de le mentionner pour la dimension formation dans laquelle elle s'investit. Elle va aujourd'hui développer un de ses thèmes de recherche relatifs aux sels dans les collections de sciences de la Terre.
Merci pour cette introduction. Je ne sais pas exactement quel est mon titre à l'INP, si c'est coordinateur. C'est vrai que j'interviens de façon assez récurrente auprès. C'est présenté comme ça. J'interviens de façon assez récurrente au département des restaurateurs de l'Institut national du patrimoine. Et ce qui m'a amené effectivement, tout simplement parce que je m'intéresse à la dégradation de façon assez large. Et étant physico-chimiste de formation, je vais ici vous présenter. Les ressorts, les principaux mécanismes qui sont sous-jacents dans les comportements des sels, de façon très générique, avec un focus un peu plus particulier sur les collections de minéralogie. Alors, qu'est-ce qu'un sel ? Eh bien, c'est un composé qui est formé de cations et d'anions, c'est-à-dire d'entités chargées positivement et négativement, et qui vont interagir fortement à travers des liaisons ioniques, c'est-à-dire des liaisons qui sont très polarisées, comme ici, par exemple, la halite, qui est le NaCl, le sel de cuisine que vous connaissez tous, avec une structure cubique face centrée. Ces structures cristallines peuvent incorporer de l'eau. L'eau, c'est une molécule qui est polarisée, donc qui va interagir assez naturellement avec les cations, les anions. Et ici, par exemple, je vous donne l'exemple de l'epsomite, sulfate de magnésium heptahydraté, donc de structure orthorhombique. Alors, ces sels, ils sont plus ou moins solubles à l'eau. Souvent, quand on pense sel, on pense solubilité. C'est plus ou moins vrai. Si on prend le gypse, par exemple, on a une solubilité qui est assez limitée, finalement, de 0,01 mol par litre. Alors que si on prend le sel, NaCl, lui, on aura une solubilité beaucoup plus importante, de 6 mol par kilogramme. Et ces sels, ils peuvent être également plus ou moins hydratés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'epsomite. Donc, cette molécule d'eau dans le réseau cristallin, mais vous avez également une structure cristalline qui va en incorporer 6, qui s'appelle l'hexahydrite, une autre qui en incorpora 5 molécules d'eau, qu'on appelle la pentahydrite, et puis on peut comme ça ensuite avoir plusieurs structures avec 4, 2, voire une molécule d'eau. Donc, on a toute une famille, finalement, minéralogique de sulfate de magnésium. Alors, un petit rappel sur l'humidité relative, parce qu'on sait tous ce que c'est que l'humidité relative, mais on oublie parfois un peu son fondement. Donc, elle est liée à la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire de l'eau dans l'air, c'est-à-dire la quantité d'eau que peut incorporer l'air et que l'on pourra reproduire expérimentalement par un tupperware fermé, en quelque sorte, dans lequel vous remplissez à moitié d'eau, et bien vous savez que l'air au-dessus de cette eau pure sera à 100% d'humidité relative, c'est-à-dire qu'on sera à la pression de vapeur saturante. Et cette pression de vapeur saturante, elle augmente avec la température, ce qui veut dire que l'air est d'autant plus capable d'emmagasiner de l'eau qu'il est à température élevée. Eh bien, l'humidité relative, c'est la pression réelle de l'eau sous forme vapeur dans l'air divisée par cette pression de vapeur saturante. Et en fait, ça va mesurer un peu la distance à laquelle on se trouve de la saturation. Ça va donner également une mesure du pouvoir asséchant de l'air. Par exemple, ici, donc, ce point qui est représenté va vous correspondre à 50% d'humidité relative, tout simplement parce qu'on a deux fois moins d'eau dans l'air qu'à saturation. Alors, lorsqu'un sel a beaucoup d'affinité avec l'humidité de l'air, on va le dire hygroscopique. Donc, lorsqu'on a une pression, une humidité relative assez faible, on aura simplement des molécules d'eau qui vont s'absorber à la surface du sel. Lorsqu'on augmente l'humidité relative, eh bien, ces molécules d'eau vont rentrer en compétition avec les lésions ioniques et puis les affaiblir. Et lorsqu'on augmente encore au-delà d'un certain seuil d'humidité relative, en fait, le réseau cristallin ne tient plus. Et là, on peut avoir plusieurs cas de figure. Selon que le sel tient, changera, il va y avoir une transformation qui peut prendre plusieurs formes. Alors, si on revient sur les collections en sciences de la Terre, je dirais qu'il y a trois types de sels. Il y a les spécimens dont la composition correspond à l'étiquette. Il y a ceux dont la composition ne correspond plus à l'étiquette. Et puis, il y a les produits d'altération. C'est vraiment trois catégories différentes. Et donc, on va commencer par les deux premières. Alors, donc, lorsque l'humidité relative augmente, je vous ai dit, au bout d'un moment, le réseau cristallin ne peut pas tenir et parfois il va se réorganiser en incorporant cette eau en excès. Ça va être par exemple le cas de la rosénite, un sulfate de fer avec 4 molécules d'eau, qui, si on augmente la température, l'humidité relative, pourra se transformer en mélantérite, un sulfate de fer avec 7 molécules d'eau. Ce sera également le cas des sulfates de magnésium, donc lorsqu'on prend une forme peu hydratée, si on augmente l'humidité relative, eh bien on ira vers des formes plus hydratées. Et les réactions inverses sont plus ou moins possibles, ça va dépendre un peu des systèmes, mais en général elles le sont. C'est-à-dire que lorsque l'humidité diminue, eh bien on va avoir une réorganisation du système vers d'autres phases cristallines. Alors, ces changements de phase, ils ont lieu à des humidités relatives qui sont très particulières, qui sont des humidités de changement de phase, et qui dépendent aussi de la température. Par exemple, le passage rosénite-mélantérite, selon qu'il a lieu à 0 degré ou à 30 degrés, eh bien, ne se fera pas avec la même humidité relative. Il en va de même pour le sulfate de magnésium, mais en plus, donc là, si on regarde les deux seuils que l'on va avoir, 58% d'humidité relative à 40 degrés et puis 70% aussi à 40 degrés, si jamais je fais la même chose, mais non pas à 40, mais à 0 degré, en fait, il y a l'étape intermédiaire qui est supprimée, en quelque sorte, on passera directement de la kisérite à l'epsomite. Ça, ce n'est pas facile à anticiper, hein, ça se mesure, mais ça ne se devine pas comme ça et ça ne se démontre pas aussi facilement que ça. Autant vous dire qu'avec ces considérations, la condition qui est 18 ou 20 degrés de température et 50% d'humidité relative, elle est complètement périmée. On peut la mettre au placard lorsqu'on a des collections de sel. Il faut tout simplement l'oublier. Et on va raisonner de façon complètement différente en regardant ce qu'on appelle les diagrammes de phase, qui sont une vraie aide à la décision lorsqu'on les connaît. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de phase? Ça va être un diagramme où sera représenté, en fonction de la température, l'humidité relative qui va permettre de définir les domaines de stabilité de certaines phases. Ici, je vous mets un schéma avec une phase 1 dont on voit... J'aurais bien aimé avoir un pointeur. Pas de pointeur. Elle est là, vous la voyez? Ah ben super. Donc avec la phase 1, par exemple, dont le domaine de stabilité est celui-là, la phase 2 ou la phase 3. Et donc, ces diagrammes de phase, selon les éléments que l'on va considérer, les systèmes salins qu'on va considérer, eh bien, ils peuvent être très différents et finalement, on peut en avoir une infinité parce que plus on complique, plus on rajoute des ions et plus on peut avoir de phases cristallines possibles. Si je prends par exemple le système dont on a parlé déjà des sulfates de magnésium, un des diagrammes de phase qui a pu être publié ici, donc on a l'humidité relative, la température, elle est exprimée en Kelvin, ça change un petit peu. Vous avez les points qui représentent des mesures et les lignes qui correspondent à des simulations. Et là, on voit donc les numéros correspondent au degré d'hydratation. Et vous le voyez... Non, mais c'est bon, là, si la souris vous convient. Bon. Et donc, par exemple, on voit ici qu'on a un passage de 7 H2O à 6 H2O avec cette ligne-là. Ici, de 7 H2O à 1 H2O, et puis là... On serait de 6 H2O à 1 H2O, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on se demande, oui, bon, la stabilité de 7 H2O, on est là, mais ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du 1 H2O, du 6 H2O? On ne sait pas trop, finalement. Et franchement, ce système-là, si je vous montre cet exemple, c'est pour montrer la complexité que peuvent présenter ces systèmes cristallins que l'on ne sait pas toujours bien modéliser encore aujourd'hui. En particulier parce qu'il existe aussi beaucoup de phases métastables qu'on verra dans certaines conditions, pas d'autres. Si on regarde bien aussi, il y a des numéros qui manquent. Par exemple, le 2H2O, la sandérite, là, apparaît nulle part dans ce diagramme. Ça veut dire qu'elle a été vue en fait en milieu naturel, mais qu'on a du mal à la reproduire en milieu artificiel, en laboratoire. Alors, donc, on comprend donc à la fois la possibilité de ces diagrammes de phase lorsqu'ils existent, ce sont des vraies aides, parce qu'on peut définir les conditions de température et d'humidité qui sont ad hoc pour certains sels, Mais la difficulté, c'est justement de parfois de les mesurer et de les connaître. Donc, deux cas de figure avec deux exemples sur des spécimens dont la composition va correspondre à l'étiquette. Alors, je prends le cas des sulfates de cuivre. Donc, la calcantite, qui peut croître soit de façon très massive lorsqu'on la synthétise en milieu aqueux, soit sous forme de fil lorsqu'elle est synthétisée plutôt en milieu plus humide, aéré. Elle appartient à une famille où on va avoir quatre phases minéralogiques, mais il se trouve que c'est celle qui est la primiformée à température ambiante. Si on augmente la température, on aura plutôt de la bonatite. Et les diagrammes de phase ont été étudiés. Le voici ici. On voit que le domaine de stabilité de la calcantite, il correspond bien à celui des conditions à peu près normales qu'on va avoir classiquement dans un musée. La calcantite, en fait, elle va plutôt bien se conserver, si ce n'est que si vous avez un été un peu chaud et puis que vous n'avez pas fait bien attention, on peut avoir un passage, une transformation en bonatite. Donc finalement, la calcantite se conserverait plutôt bien, et puis on a d'autres cristaux, de bonatite ou de poitevinite, qui seraient plus difficiles à conserver sans prendre des précautions particulières. Et là, avec toutes les présentations qui ont eu lieu ce matin, on voit vers quoi on s'oriente. C'est typiquement des conditionnements en milieu scellé, avec des gels de silice ou avec des absorbeurs d'humidité. Et puis on se pose la question, mais où est la boutite ? Eh bien, c'est une bonne question. Là encore, on a un minéral qu'on voit en milieu naturel et dont on ne sait pas trop où il se place dans le diagramme de phase. Le cas des spécimens dont la composition ne correspond pas nécessairement à l'étiquette, là on a un bel exemple, cette fois avec des sulfates toujours, mais de fer, avec la mélantérite. Donc cette fois c'est du sulfate de fer 7H2O, qui va croître de façon très massive encore, comme la calcantite, lorsqu'elle est synthétisée dans de l'eau saturée, mais qui pourra se présenter aussi sous forme de pyphile lorsqu'elle croît en milieu aéré humide. Et là encore, on a toute une série de sulfates de fer, la mélantérite étant la phase primoformée à température ambiante et la zomolnokite étant une phase primoformée au-delà d'une certaine température. Et là, donc, en matière de diagramme de phase, eh bien, on a aussi assez peu d'informations. On connaît bien la limite entre rosénite et mélantérite, elle a été étudiée. Et on voit très clairement que cette fois, dans des conditions normales de musée, la mélantérite, on aura du mal à la conserver sans prendre de précautions particulières, alors que la rosénite, elle, se conservera beaucoup mieux. Donc ça veut dire qu'une mélantérite va se déshydrater naturellement et on tombera sur la rosénite. Alors il faut se méfier un petit peu de ces diagrammes de phase parce qu'on peut aussi avoir des phénomènes de métastabilité. Je me suis rendu compte en faisant quelques expérimentations que parfois on peut être un petit peu à l'écart de cette ligne-là qu'on veut très fine, mais qui finalement est plutôt un domaine. Et on peut avoir des mélantérites un peu métastables, c'est-à-dire thermodynamiquement, elles ne devraient pas exister, mais physiquement, force est de constater qu'elles existent. Ça veut dire qu'on a des problèmes de cinétique. Et pareil, on peut avoir des zones où la rosénite peut aussi parfois exister. Et puis on se pose encore la question, mais la ferrohexahydrite, la sidérotile, le zomolnokite, elle est où ? Eh bien, ce sont des bonnes questions. La zomolnokite existe, c'est clair, on la voit en milieu muséal, on arrive très bien à la synthétiser, et elle est probablement plutôt dans ces zones-là, mais elle n'a jamais été mesurée réellement. Et quant à la ferrohexahydrite et la sidérotile, eh bien, ce sont un peu les fantômes des sulfates de fer, dont on se demande qui les a vus et où ils sont. Voilà. Et puis, dès que vous avez ce genre d'altération, on a une deuxième voie d'altération, c'est que le fer peut s'oxyder et se transformer en fer 3. Et là, on ouvre la porte au sulfate de fer 3, et la famille minéralogique des sulfates de fer 3 est encore beaucoup plus large que celle des sulfates de fer 2. Donc, c'est typiquement ce que l'on va constater dans le tiroir qui est dédié à la mélantérite dans les galeries de minéralogie, qui ne sont ni climatisées, qui sont dans leur jus depuis bien longtemps déjà. Des spécimens dont certains datent du début du XXe siècle. Et on voit bien qu'ils ne sont pas tous verts, très peu le sont. Et on va par exemple se retrouver ici avec un spécimen qui sera quasiment exclusivement de la rosénite. Et puis celui-là où on aura un peu plus de jaune, ce qui va suggérer qu'on aura des sulfates de fer 3. Pour vous donner un autre exemple, ici, donc un spécimen, pisanite, c'est un ancien nom de la mélantérite qui incorpore un peu de cuivre. On va avoir des spécimens qui, aujourd'hui, vont avoir une très grande variété minéralogique en incorporant des sulfates de fer 3, mais aussi du gypse, de la rosénite et de la calcantite. Et on se demande d'ailleurs, cette calcantite, est-ce que c'est une phase d'altération parce que le cuivre a été mis de côté, il s'est finalement recristallisée sous forme de calcantite, ou est-ce que initialement elle était présente? C'est une bonne question, on ne sait pas. Et finalement, on se rend compte que ces spécimens qui au départ devaient être plutôt de la mélantérite présentent aujourd'hui tout un éventail de possibilités. Alors que faire? Eh bien, que faire? C'est limiter au maximum les variations de température et d'humidité parce que ce sont elles qui sont les vecteurs des transformations. Et si possible, repérer les conditions de température et d'humidité optimales lorsqu'on a des sels en minéralogie en fait, que l'on veut conserver. Donc ça suppose de connaître les diagrammes de phase, de se placer au centre et de réfléchir sur ces conditionnements fermés avec des gels de silice. Donc, et en réfléchissant, en disant aussi, il faut le mettre dans un endroit où la température varie peu. Parce qu'on peut aussi avoir un changement de phase lorsque l'humidité relative est constante et que la température oscille. Et puis si on ne connaît pas le diagramme de phase, eh bien, on va se dire, on le laisse comme il est, on essaie de limiter au maximum les changements, peut-être en choisissant, même si c'est de façon un peu arbitraire, on va peut-être provoquer à l'instant T une variation, un changement de phase, mais après, si l'humidité et la température restent constantes, il n'y a pas de raison que ça évolue davantage. Donc on a toujours ces risques-là. Et gardez quand même en tête qu'un sel transformé garde une vraie valeur scientifique. Pourquoi? Parce que ça nous renseigne sur les phénomènes de diagénèse, de formation de ces sels. Donc ne pas les jeter, s'il vous plaît, sans réfléchir. Alors la troisième catégorie porte sur les produits d'altération. Donc ces sels sont généralement des produits d'une altération qui a lieu dans un matériau poreux. Il y a plusieurs types d'altérations. Il peut y avoir des réactions de type acide-base, de type électrochimique, oxydation, oxydoréduction. Je reviens sur les andes de la pyrite. Je vais essayer de passer très vite dessus en m'attachant non pas à la pyrite, mais aux produits de dégradation parce que ce sont des sulfates que l'on va obtenir. Alors, la pyrite, c'est ce fameux minéral FeS2 qui peut avoir différentes formes, plus ou moins complexes, qu'on peut trouver à différentes échelles, macro ou micro, voire nano, et que l'on va trouver plutôt à l'échelle macro en géologie, aussi en paléontologie, mais qu'on trouvera beaucoup à l'échelle nano et microscopique en paléontologie sous forme de cette pyrite frandoïdale qui est de taille très très fine. Et elle peut s'oxyder. Cette oxydation va d'abord, avant tout, toucher le soufre qui va se transformer de S-1 à S+6. Donc il y a 7 électrons qui sont échangés dans cette réaction. Autant dire que ce n'est pas une réaction qui se fait comme ça sur un claquement de doigts. C'est un processus qui est long avec plusieurs intermédiaires. Et voilà ce que ça peut donner. Donc d'une pyrite qui, on appelle ça l'or des fous, hein, c'est un matériau qui est un peu brillant, souvent un peu jaunâtre. Eh bien, il va se couvrir d'une poudre où il va tout simplement, craqueler, et on verra dans les interstices une poudre blanche, parfois jaune, émerger. Alors cette oxydation, en fait, elle résulte principalement de mécanismes électrochimiques qui sont catalysés par le fer en présence d'oxygène. Mais qui dit électrochimie dit eau, hein, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électrochimie. Donc il ne faut pas oublier que l'eau, comme disait Gillian tout à l'heure, l'eau c'est le véhicule de ce type de mécanisme. Et puis il peut être amplifié par la présence de bactéries. Alors elles ont des petits noms, il y a les BSR, bactéries sulfato-réductrices, les BSO, les bactéries sulfo-oxydantes, et les BFO, les bactéries ferro-oxydantes. Voilà. Donc ces bactéries, en milieu muséal, on peut un peu les oublier, mais quand on prend du matériel neuf que l'on sort de terre, on ne peut pas les oublier, on ne peut pas faire une croix dessus. Ces bactéries, elles ont une activité qui peut être délétère. Et donc cette oxydation, elle va libérer ces ions dans l'eau qui est condensée à l'intérieur du matériau, provoquer des sortes de saumures, et au bout d'un certain seuil, on aura une précipitation avec des sulfates de fer 2, et voire des sulfates de fer 3 si on a une oxydation du fer 2 en fer 3. Et à chaque fois, l'eau est un vecteur moteur de ces phénomènes. Alors voilà ce que ça donne sur des matériaux paléontologiques. Un exemple, ici, on va retrouver très fréquemment ces trozénites zomonotiques dont je vous ai parlé, sulfates de fer 2, mais on trouvera souvent aussi des petits points jaunes qui, eux, sont de la famille des sulfates de fer 3, ici de la jarosite. Et en fait, le problème, outre l'aspect disgracieux, le problème, c'est un problème de stress mécanique. Pourquoi ? Parce que ces croissances cristallines vont un petit peu pousser les murs. On le voit bien ici à travers cette écaille qui se détache. On le voit très bien aussi à travers cet exemple de pyrite où, qui s'est fracturé sous la pression de ces sels. Et cela vient du fait que la pyrite a une densité assez élevée, donc ça veut dire que c'est un matériau très compact, alors que ces sels ne le sont pas du tout. On passe de 5 à 1,9 pour la mélantérite. Ça redécroît, ça redescend un peu jusqu'à 3. Donc ça veut dire que la même quantité de matière, fer, soufre, va occuper 2 à 3 fois plus de volume. Donc bien évidemment, ça va pousser les murs. Alors, les sulfates de fer ne sont pas trop déliquescents, mais vous avez encore dans ces phénomènes d'altération par les sels un autre aspect qui est très important, c'est la déliquescence. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on augmente l'humidité relative, on peut avoir des changements de phase. Eh bien, dans certains cas, le changement de phase, c'est simplement que le cristal disparaît. Et à la place, vous avez une petite flaque d'eau salée. C'est ça la déliquescence. C'est que le réseau s'effondre complètement et absorbe tellement d'eau qu'on finalement on se retrouve avec une eau salée. Et donc, si on redescend l'humidité relative, eh bien, on aura à nouveau une cristallisation. Et en fait, ces phénomènes de changement de phase, ils ont lieu là encore avec une humidité relative très particulière. C'est ce qu'on appelle le seuil de déliquescence ou le seuil de cristallisation, selon le sens dans lequel on le prend. Et au seuil de déliquescence, c'est le seul endroit, c'est la seule humidité relative pour laquelle vous aurez un équilibre entre l'eau salée et le sel, c'est-à-dire qu'on sera à saturation, physico-chimiquement, on sera à un niveau de saturation de ce sel. Alors, à quoi ça correspond physiquement, ce phénomène de déliquescence ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la vapeur d'eau, de l'équilibre entre l'eau-vapeur et puis l'eau liquide, qui correspond à des échanges qui sont incessants. Vous avez des molécules d'eau-vapeur qui vont se liquéfier, des molécules d'eau qui vont passer en vapeur. Il ne faut pas imaginer qu'on a une barrière entre les deux. Et que se passe-t-il lorsqu'on va mettre des sels, c'est-à-dire des particules qui sont ioniques, qui sont très électrophiles ou pas, enfin qui seront très, très chargées, très polarisées ? Eh bien, l'eau qui est une molécule polarisée va interagir avec ce sel. Et va tellement interagir qu'elle va disparaître sous forme vapeur, ce qui fait que finalement, à l'équilibre, on aura une pression de vapeur d'eau qui sera inférieure à la pression de vapeur saturante dès lors que vous avez une solution saline. Et donc finalement, l'humidité relative au-dessus d'une solution saline, à l'équilibre, elle va être imposée par la nature et la concentration du sel. Et finalement, cette humidité relative au-dessus d'une solution saline saturée, c'est-à-dire où on a à la fois qui est très concentrée, mais où on a aussi ce sel qui est présent à l'état solide, eh bien, c'est celle qui correspond à l'humidité de déliquescence ou de cristallisation du sel. C'est la même chose, c'est les deux phases deux aspects d'un même phénomène. Alors, cette déliquescence, elle a lieu à des humidités particulières qui peuvent dépendre aussi de la température, hein, comme ici, par exemple. Je vous parle de celle de sulfate de magnésium, 7H2O, qui, entre 0 et 40 degrés, ben on aura un niveau de déliquescence, une humidité relative, qui sera inférieure à 40 degrés. NaCl, par contre, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on a un seuil de déliquescence qui varie peu avec la température, mais qui est beaucoup plus bas, 75% d'humidité relative. On a souvent 75% dans l'humidité relative quand on a, entre guillemets, des accidents de climatisation. Et en plus, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que ce seuil dépend aussi de la présence d'autres sels. Et donc ça, c'est des phénomènes. Par exemple, si je mets dans cette solution saturée de NaCl, je rajoute des ions potassium et des ions nitrate, eh bien j'aurai des phénomènes de cristallisation, de déliquescence, c'est la même chose, qui seront à humidité relative plus basse. Donc ça veut dire que ces seuils de déliquescence, ils vont complètement dépendre de ce qu'il y a dans le milieu. Et ils ne sont pas toujours très faciles à anticiper. Il existe aujourd'hui des quelques petits modules qui, comme RunSalt qui permettent, dans certains cas, de les estimer. Donc, ces phénomènes de déliquescence, ils ont, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, un fort impact sur les pierres de construction. Si vous avez des matériaux calcaires, de la pollution, typiquement des SOX, des NOX, un environnement humide et marin, qui dit marin dit sel, NaCl. Eh bien, en général, vous pouvez assez facilement avoir condensation dans les pores. De votre pierre, d'une eau avec présence de calcium, sulfate, nitrate, magnésium, potassium, chlorure et sodium. Et tout ça, c'est un mélange qui, en fonction de l'humidité et de la température, il y aura des seuils en dessous desquels vous aurez une saumure et au-dessus desquels, pardon, vous aurez une saumure et en dessous desquels vous aurez des phénomènes de cristallisation. Et donc, c'est typiquement ce qui va créer ces phénomènes de pulvérisation, de pulvérolence, pardon, et de desquamation des pierres. Alors, un exemple, et puis j'en finirai avec ça, de ce type de dégradation qui m'a semblé voir dans des collections de paléontologie. Ici, c'est un spécimen de Ninosiphius platyrostris, excusez-moi, qui était altéré, sur lequel on avait attiré mon attention. Effectivement, on voit des petits sels à la surface, mais surtout, ce qui m'avait accroché l'œil, c'est ces gouttes. On avait un fossile qui pleurait, littéralement parlant. Et ces gouttes, quand on les analyse leur composition, on voit qu'il y a du sodium, du chlore, du soufre et du magnésium, avec un petit peu de potassium. Et en fait, ces fossiles, ils ont été prélevés dans un environnement qui est désertique, qui est proche de la mer, donc présence de NaCl. Et donc, ils viennent du Pérou, dans la formation Pisco. Donc, ce sont des chantiers qui ont été dirigés par Christian de Muison. Et ce qu'on en a constaté, c'est qu'il y avait aussi dans le sédiment, puisqu'on avait quand même quelques traces dans ces fossiles, des sulfates de magnésium. Et ce que je suspecte, parce qu'on n'a pas été très loin dans cette étude, elle mériterait d'être un peu plus approfondie, c'est qu'on avait finalement, dans ce fossile, on avait au départ du sel NaCl et puis du sulfate de magnésium, deux sels dépendants en quelque sorte, et qu'on a eu à un moment donné un pic d'humidité. Un pic d'humidité qui nous a fait passer au-delà du seuil de déliquescence du NaCl, qui est quand même assez bas finalement. Et donc, ce pic d'humidité a fait qu'on a eu de l'eau, et puis on l'a dissous. Donc, plutôt que d'avoir NaCl, on a eu Na+, Cl-, et plutôt que d'avoir des cristaux de MgSO4, on a eu Mg2+, et SO4 dissous dans de l'eau. Et là, on se retrouve avec deux ions, chlore et magnésium, qui adorent se mettre ensemble, qui forment des chlorures de magnésium, avec des niveaux de déliquescence qui sont encore plus bas. Si je prends l'exemple de la bischofite, eh bien, on a un niveau de déliquescence qui est à 30% d'humidité relative, c'est très très bas. Donc c'est peut-être ce qui explique que ces fossiles ont toujours l'air mouillés, qu'on a des gouttes comme ça qui tombent. Donc le matériau va rester humide. Si à l'intérieur de ce matériau il y a de l'acidité, eh bien, on a des altérations potentielles. Et donc il y a tout un travail à faire pour mieux identifier ces sels. Et à poursuivre pour savoir un peu plus que faire dans ces conditions. Et donc, que faire? Voilà encore la dernière question. Pour les sels indésirables, qui sont les produits d'altération, je dirais, basiquement, de façon très basique, il y a deux cas de figure. Si on a un sel qui est assez stable, c'est-à-dire qui n'est pas trop déliquescent, faire en sorte qu'il le reste en se rapportant au point numéro 1 et 2. Et puis, si le sel est instable, c'est-à-dire particulièrement déliquescent, et il faut commencer peut-être à étudier les pistes de traitement, de conditionnement approprié. Une chose est sûre, c'est ce qu'il faut éviter, c'est les changements de conditions et les passages cristallisation-déliquescence, parce que c'est ça qui crée le stress mécanique et qui crée les fractures. Donc, à la limite, parfois, il vaut mieux laisser le sel dans sa saumure à l'intérieur du matériau, si on pense que ça n'attaque pas trop le matériau, ou au contraire, le faire cristalliser et puis le laisser sous forme cristalline, mais c'est les va-et-vient qu'il faut absolument éviter. Voilà, je vous remercie.
Sachant que la fin de la journée, on vous a prévu un petit créneau de discussion où on sera tous ici pour répondre à d'autres questions. Je sais que Damien en a toute une liste, il m'a dit tout à l'heure. Donc on peut y aller maintenant et un petit peu plus tard.
Oui, peut-être comme ça vous avez le temps de maturer le propos riche de Véronique et si vous avez, on peut les prendre un peu après.
Ah, ouais. C'est génial.
Merci Véronique. J'avais, alors je ne sais pas à quel point tu vas pouvoir répondre, mais sur ces diagrammes de phase, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est hyper important, mais à quel point est-ce qu'ils sont connus? Parce que j'ai l'impression que souvent on a des diagrammes, en tout cas en physico-chimie, EH, potentiel redox avec température, et en fait on n'a pas souvent cette donnée d'humidité relative. Donc est-ce que, tu en as montré quelques-uns sur les sulfates qui sont 2002-2011 en fait, est-ce que tu pourrais faire un petit retour sur en fait cette abondance de données est-ce qu'on a du mal à les trouver?
Il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas beaucoup qui sont présentés sous forme humidité relative, température. Alors souvent ils sont présentés sous forme activité de l'eau, c'est un peu la même chose. Donc c'est un peu, on n'ose pas, mais c'est finalement, d'un point de vue physico-chimique, c'est la même chose.
Et est-ce que tu as une piste?
Alors, il y a des pistes là. Donc justement, j'en parlais à midi. Il y a tout un travail qui est assez récent finalement, qui a été publié assez récemment avec un logiciel qui s'appelle RunSalt, qui est en accès libre et qui permet de calculer des seuils de déliquescence. Donc, et qui a été mis au point dans une optique qui est vraiment conservation des pierres bâties. Alors, ils expliquent aussi, donc, c'est le genre de logiciel à utiliser. Il est ultra simple à utiliser, mais ils ont fait un article qui explique comment l'utiliser, parce que, par exemple, dans les modélisations de ce logiciel, ils considèrent systématiquement que tout ce qui va être, dès qu'on a du calcium et du sulfate, ça va tout de suite précipiter. Donc, ils enlèvent tout de suite quand ils ont du calcium et du sulfate, s'ils ont, par exemple, une mole de calcium, deux moles de sulfate, ils vont considérer que le calcium n'existe pas. Et ils vont considérer une seule mole de sulfate, ils vont considérer le sulfate qui reste. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça à connaître. Et ils ont aussi mis un gros warning sur les sulfates de magnésium en disant on ne sait pas faire, on ne sait pas bien faire, c'est pas super fiable. Mais dans d'autres cas de figure, parce qu'ils considèrent quand même le potassium, sodium, calcium, chlore, les principaux, les nitrates et les sulfates. Donc c'est déjà pas mal, et on joue un petit peu avec, ça donne quand même des idées de seuils et surtout les phases qui précipitent et le volume de ces phases. Donc ça donne aussi une idée des variations de volume, parce que quelquefois on peut avoir des changements de phase, si ça se fait à volume constant, c'est peut-être pas très grave. Ceux qu'il faut repérer, c'est ceux où il y a une très grosse variation de volume. Donc c'est un outil qui est assez, qui m'avait l'air comme ça a priori, je l'ai pas fait fonctionner de façon intensive, assez puissant pour être utilisable, y compris sur la statuaire.
Merci.
Voilà. Y compris dans un environnement de recherche.
Ma question, ce serait, pour reprendre l'exemple de la mélantérite, du coup, qui n'est pas très stable dans les milieux, enfin, qui a tendance à changer de phase dans les milieux muséaux. Si on sait pertinemment qu'on avait de la mélantérite, qu'elle a changé de phase, est-ce qu'on peut avoir, on peut procéder à une sorte de restauration en la remettant dans les bonnes conditions pour qu'elle se re...
C'est une très belle question. La réponse, malheureusement, est non, tout simplement parce que quand la mélantérite va changer de phase, en fait, on va obtenir un matériau qui vous touche à peine dessus et ça s'effondre. C'est-à-dire que le réseau est perdu quelque part. Donc vous aurez une poudre, vous pouvez effectivement réhumidifier, donc cette poudre va peut-être changer un peu de couleur si les particules sont pas trop petites, mais vous aurez une poudre de mélantérite et pas une poudre de rosénite, quoi. Voilà. Donc quelque part, ces transformations, elles restent quand même assez irréversibles.
Merci Véronique, et n'hésitez pas à réfléchir si vous avez une question plus tard, puisqu'il y aura une nouvelle séance. Merci beaucoup. Je vais appeler Anne à nous rejoindre. Yégé, merci. Si tu as besoin, il y a la petite flèche et okay. Tu peux passer sur le côté avec les petits...
Il faut juste que je trouve mon PowerPoint. Il me déclenche en haut, ok.
Peut-être un petit mot, j'imagine que vous connaissez tous Anne Yégé, qui est conservatrice restauratrice de sculptures, spécialisée dans les problématiques de dessalement et de consolidation des matériaux poreux, donc en pleine continuité avec la présentation de Véronique. Elle a notamment mis au point un protocole de consolidation et de dessalement des tablettes cunéiformes en terre cuite. Elle est également enseignante pour le département des restaurateurs de l'INP et à l'Université de Paris. Hein. Voilà. Merci à vous.
Bonjour, merci. Juste une petite précision, c'est sur les tablettes cunéiformes en terre crue.
Oh, pardon. Donc,
mais c'est pas grave. C'est juste.
J'ai écrit crue, pardon, excusez-moi. Ouais.
Moi, je vais vous emmener dans un monde un peu, enfin, très différent des collections d'histoire naturelle. Et je vais vous parler de sculpture en milieu muséal. Et dans notre discipline, quand il y a des selles, on essaye surtout de les éliminer. Et avant de les éliminer, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc vous allez retrouver des choses que Véronique vous a présentées à l'instant, mais cette fois-ci présentées par une restauratrice. Donc les sels sont des composés solubles et hygroscopiques qui ont chacun leur une solubilité qui leur est propre. Et donc par exemple, vous pouvez dissoudre, ce que disait Véronique à l'instant, 360 g de chlorure de sodium dans un litre d'eau, alors que vous ne pouvez y dissoudre que 2 g de gypse. Et cette information pour nous restaurateurs est importante parce qu'elle va pouvoir, elle conditionne aussi le traitement de dessalement qu'on va pouvoir proposer si jamais les sculptures sont infestées par des sels solubles. Et donc ces sels réagissent aussi aux variations climatiques en fonction de ce qu'on appelle l'humidité active de cristallisation ou humidité relative d'équilibre qui elle aussi est caractéristique pour chaque espèce saline. Donc là, vous avez un petit schéma qui est issu de Monumental 2001, qui est une publication sur le dessalement, une publication qui a été faite par Véronique Vergès-Belmain. Et donc, quand l'humidité relative ambiante est inférieure à l'humidité relative de cristallisation du sel, le sel est à l'état cristallin. Quand l'humidité relative est équivalente et au même niveau que l'humidité relative de cristallisation du sel, le sel devient déliquescent, donc il devient à l'état de saumure. Et quand l'humidité active est supérieure à l'humidité active de cristallisation, le sel passe à l'état soluble. Et donc, ceci est important pour nous aussi en milieu muséal pour tout ce qui est décision de conservation préventive. Et par exemple, si vous avez des... Donc là, la souris ne marche pas. Donc si vous avez des sels... qui sont donc comme le chlorure de sodium dont l'humidité relative de cristallisation à 25 degrés est de 75%. Si on a une humidité relative qui est pas tout le temps inférieure à 75%, on ne risque pas forcément d'avoir des problèmes de conservation. Celui-là. Ok. Super, merci. Donc ici, voilà, en fonction de si on a que du chlorure de sodium dans l'objet. Et que l'humidité relative de l'espace dans lequel il est conservé ne montera pas au-dessus de 75%, le sel normalement ne bougera pas et on n'aura pas de problème de conservation. De même, si on a par exemple une œuvre qui est infestée par des chlores de calcium, dont la chair C est de 29% à 25 degrés, normalement dans les musées, on ne descend pas à des humidités relatives. Ambiante inférieure à 30%, donc le sel va rester à l'état soluble et on n'aura pas vraiment de problème de conservation. En revanche, si on a une œuvre qui est infestée de nitrate de calcium, dont la chair C est de 50%, dans nos milieux et même dans des zones plus ou moins contrôlées, on a souvent des variations entre 45 et 55 ou 60%, et donc dans ces cas-là, les sels qui sont présents dans l'objet et surtout à la surface de l'objet, risque de bouger et d'entraîner des tensions à l'intérieur du matériau et donc d'entraîner des altérations. Pardon. Donc je vais vous présenter les différents types de manifestations des sels sur quelques sculptures que j'ai eu l'occasion de restaurer. Là, vous avez la Trinité qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Qui est en pierre calcaire. Et donc, pendant le constat d'état, donc je me suis aperçue que sur la sculpture, on avait différents types de formations salines, enfin, ou de de manifestations physiques de ces sels. Donc, vous aviez, juste à côté de la sculpture, vous avez des croûtes de sel. Par endroits, il y avait des efflorescences qui ressemblaient plutôt à de la poussière. Et au revers de la sculpture, il y avait des petits picots de sel qui sortaient de toutes les porosités de la pierre. Une autre sculpture qui, elle, est conservée à l'hôtel de Soubise, qui est aussi en calcaire, et sur laquelle on s'y sont aperçus récemment, donc qui a été nettoyée dans les débuts des années 90, puis renettoyée il y a 2 ans, changée d'endroit d'exposition, et tout à coup, il y a eu plein d'efflorescences de sel qui sont apparues, donc plein de poussière de sel mélangée à de la poussière de pierre à la surface de la sculpture. Une autre manifestation des sels, alors donc là, on a des sels qui arrivent sous de la polychromie. Donc là, vous avez une Marie-Madeleine qui fait partie d'un groupe de 13 sculptures dans la Sainte-Chapelle de Châteaudun, et donc qui sont des sculptures polychromes. Et sur ces sculptures, vous avez ce qu'on appelle des brocarts appliqués, c'est-à-dire de la polychromie avec de la cire et des différents types de décors. Et entre, ici vous avez la pierre, là vous avez des restes de polychromie. Et donc sous les restes de polychromie, on a observé des manifestations, des efflorescences de sel qui étaient principalement des chlores de sodium. Là, une tablette cunéiforme où on retrouve ce phénomène de subfluorescence, c'est-à-dire de cristallisation des sels sous la surface de l'objet. Et vous voyez ici, donc sous cette tablette, ici et là, vous avez un détail, il y a des gros cristaux de sel qui se sont formés et qui se sont sans doute formés au moment de pendant l'enfouissement de la tablette avant qu'elle ne soit mise au jour. Un autre type d'altération que l'on retrouve régulièrement là sur les terres crues, c'est une petite sculpture en terre crue qui est grande comme ça, et on a un phénomène de feuilletage, et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à de la pâte feuilletée, où vous avez vraiment tout le feuilletage de la terre, des argiles, et entre ces zones feuilletées, vous avez des cristaux de sel que l'on ne voit pas sur cette photographie, mais qu'on voit sous binot ou au microscope. Toujours une tablette cunéiforme. Donc là, on avance dans le degré d'altération dû au problème de sel. Et donc, vous avez ici la face, la face et là le revers de la tablette. Et donc, cette tablette n'était plus manipulable parce que donc vous voyez que sur la face, une bonne partie de l'inscription a disparu. Elle est encore partiellement conservée au revers, mais à peine on touchait l'objet que tout risquait de tomber et donc elle n'était plus consultable par les chercheurs. Encore un type d'altération, et là cette fois toujours sur un calcaire, mais donc sur une pierre calcaire qui vient d'Égypte, une selle qui a été rapportée après l'expédition de Napoléon en Égypte, et donc qui est arrivée en France en bon état. Et qui, au début des années 2000, était dans un état un état assez dramatique, avec la perte de toute la partie inférieure de la surface de la stèle. Donc, vous avez des détails ici. Donc, ça, c'est déjà après dépoussiérage. Donc, l'ensemble de la surface était pulvérulente. Et c'était un mélange de poudre de sel et de pierre. Donc, une fois ces constatations faites, quand on nous présente une sculpture, vient le diagnostic qui se fait là, soit par nous-mêmes avec des bandelettes qui nous permettent d'identifier les types de sel en présence. Donc, quand je dis le type de sel, on peut, grâce à ces bandelettes, uniquement identifier les anions, c'est-à-dire les chlorures, les sulfates et les nitrates. Et si on veut aller plus loin, on fait appel à des laboratoires pour analyser les sels en présence. Donc, sur ce calcaire, il y avait énormément de chlorure. Il y avait un mélange d'hypochlorite, de chlorure et de potassium, si mes souvenirs sont bons. Et donc, si ça avait été une sculpture, c'était une sculpture qui était conservée en Bretagne, mais qui avait été achetée à un antiquaire qui avait récupéré l'œuvre dans une église à l'intérieur des terres. Donc, les embruns et le chlorure de sodium venant de la mer étaient à exclure. Donc, il a fallu essayer de comprendre pourquoi on avait autant de sel sur cette œuvre, et c'était sans doute dû à un nettoyage un peu drastique fait par l'antiquaire qui avait vendu la sculpture au musée. On retrouve la stèle égyptienne. Donc, je vous disais qu'elle était arrivée en France en bon état, mais elle a été, donc avant que les réserves du musée du Louvre ne soient ce qu'elles sont aujourd'hui, enfin en bon état et en état de marche et de conservation des œuvres, certains objets ont été posés dans des endroits qui n'étaient pas du tout adaptés, surtout pour ces objets qui viennent d'Égypte, qui contiennent énormément de chlore de sodium et de chlore de potassium. Et une des choses qui était assez étonnante pour cette œuvre, c'est qu'elle était recouverte de ce que nous appelons de la croûte noire, qui en général est une manifestation d'une altération qui se forme à la pollution atmosphérique en Europe, peut-être même dès l'époque médiévale, mais pas du tout en Égypte. Et il y a quelques années, nous avons fait tout un travail d'étude avec Gilles Martinet d'Asley Conseil, Thierry Deputer du musée du centenaire du musée de Bruxelles et Sophie Duberson des Antiquités égyptiennes. Et en fait, on s'est aperçu que cette stèle et d'autres avaient souffert de la pollution atmosphérique à Paris après être arrivés en France après l'expédition de Napoléon. Et donc, on se retrouvait avec un faciès d'altération qui n'était pas du tout habituel pour des œuvres égyptiennes. Donc, le chlorure de sodium et le chlorure de potassium sont des faciès d'altération, enfin, des sels que l'on connaît dans ces œuvres-là, mais les sulfates en surface, donc la croûte noire, ne fait pas du tout partie des altérations habituelles des œuvres égyptiennes. Cette table cuneiforme, les sels en présence, c'était... Donc, il n'y a pas eu d'analyse spécifique sur cette tablette-là, mais en général, toutes les tablettes qui ont été mises au jour en Mésopotamie, donc en Irak actuel, sont toutes contaminées par des chlores de sodium aussi, principalement, et un peu de chlore de potassium, puisque on est dans des zones où la nappe phréatique est très haute. Et donc, y a énormément de sel. Même, il y a déjà des textes dans l'Antiquité qui expliquent que les travaux des champs sont compliqués parce que toute la plaine alluviale est infestée de sel soluble. Voilà pour ça. Oui, donc ce que je voulais, en fait, et cette tablette s'est retrouvée dans un état d'altération très très avancé. Parce qu'une grande partie de la collection des tablettes cunéiformes du musée du Louvre a été transportée au moment de la Seconde Guerre mondiale dans les châteaux de la Loire, et que ces œuvres se sont retrouvées dans des conditions de conservation, entre guillemets, avec des variations hygrométriques importantes qui ont fait donc bouger les sels qui sont présents, qui ont infesté ces objets. Et donc, pour ces deux sculptures, donc je vous remonte la Marie-Madeleine de Châteaudun à votre gauche et la Bacchante de Pajou, le diagnostic était un peu plus compliqué parce qu'il fallait aussi, enfin, il y avait aussi toute la proposition du traitement de dessalement. Donc, en général, pour savoir si, pour proposer éventuellement le dessalement d'une sculpture, on fait des prélèvements en profondeur pour savoir quel est le niveau d'infestation des sels. Et si vous regardez le petit diagramme sous la Marie-Madeleine, quelle que soit la profondeur, donc que ce soit à 5 mm de la surface, entre 2 et 3 cm et entre 4 et 5 cm, on a quasiment les mêmes taux de chlorure, de nitrate et de sulfate. Donc, a priori, quand on est à 5 cm sous la surface, on a encore autant de sel. La proposition habituelle, je dirais, serait de proposer un dessalement. Pour la Bacchante de Pajou, il a été possible d'identifier les sels. Donc il n'y a pas eu de prélèvement en profondeur, il n'y a pas eu de trous percés dans la sculpture, mais comme il y avait beaucoup d'efflorescences, j'ai pu prélever une partie des efflorescences qui ont été confiées à un laboratoire, et on y retrouve un petit peu de chlore de sodium, de nitrate de potassium, donc ce qu'on appelle aussi du salpêtre, on en retrouve en plus grande quantité, un nitrate de sodium, et puis d'autres types de sel, et bien entendu de la calcite, mais là qui est le matériau puisque c'est, je vous disais tout à l'heure que c'était un mélange de sel et de fragments de pierre. Et donc toutes ces informations peuvent ensuite, enfin, aident à la prise de décision, et la prise de décision de quel type de traitement l'on va faire. L'autre aide à la décision, le logiciel dont parlait Véronique tout à l'heure, le RunSalt, mais je me base souvent, sur cette liste qui est assez ancienne, mais qui donne des minéraux, et à chaque fois, donc dans la colonne ici, vous avez la température entre parenthèses et le pourcentage qui est l'humidité relative de cristallisation. Et donc ce genre d'information me permet aussi de savoir si, par exemple, pour la bacchante de Pajou, je sais quelles sont les sels qui sont présents, j'ai cette information et je peux savoir si les sels qui sont présents dans la sculpture sont vraiment des sels solubles que je peux proposer d'extraire par un dessalement ou si je dois proposer plutôt des techniques de conservation préventive. Donc ce genre d'informations, donc ces données d'humidité relative de cristallisation sont des aides à la décision aussi pour les restaurateurs. Et donc l'autre aide à la décision, ce sont les mesures de climatique. Ce que j'avais demandé pour la Marie-Madeleine, donc là vous avez les variations climatiques sur un an. Ce qui est en bleu, c'est les variations de l'hygrométrie. Donc même si c'est sur un an, donc c'est très ramassé, mais il y a des variations quotidiennes qui sont énormes. Le relevé climatique pour la bacchante de Pajou, donc en bleu aussi, vous avez les variations hygrométriques et en rouge, les variations de température. Et elle est aujourd'hui exposée dans un espace où il y a une baie vitrée qui n'est pas du tout... où il y a des courants d'air et qui n'est pas du tout hermétique et où on suit vraiment les variations. Donc les variations hygrométriques... Suivent aussi les variations de température. Donc, quand la température monte, on a des variations. Enfin, on a une hygrométrie qui est plus élevée, mais on a aussi des variations importantes en fonction de la pluie et des précipitations extérieures, puisque il y a un accès quasi direct entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans l'espace entre deux escaliers où la sculpture est exposée aujourd'hui. Une autre aide au diagnostic, c'est l'histoire de l'œuvre. La petite sculpture que vous avez là, c'était en fait une ébauche qu'avait fait Graillon, puisqu'ensuite on sait qu'il a réalisé cette œuvre en ivoire. Donc il avait d'abord ébauché cette sculpture pour la présenter au commanditaire. Et alors qu'on connaît d'autres de ses œuvres en terre crue qui sont dans une terre en très bon état, on sait que pour cette petite sculpture, il est allé chercher de la terre dans les falaises de Dieppe, en bord de plage. Donc, le feuilletage qu'on voit ici, c'était donc les analyses avec les bandelettes, là, ont montré la présence de chlorure. C'était dû à la présence de chlorure de sodium dans la terre et pour une sculpture qui était exposée à des variations hygrométriques, donc sans doute une humidité relative qui montait au-delà de 75%, puisque l'humidité relative de cristallisation du chlorure, c'est 75%, donc ça montait au-delà, donc le sel devenait déliquescent, puis ça rebaissait et recristallisait, donc ça entraînait des tensions, et au fur et à mesure des années, et de la multiplication de ces variations hygrométriques, la terre s'est peu à peu endommagée et s'est feuilletée. Allez plus vite. Ok, donc je passe la tablette. Les possibilités qu'on a en restauration, donc c'est un dessalement. Vous avez ici la trinité du musée des Beaux-Arts de Rennes qui a été dessalée par compresse. Donc par compresse de pulpe de papier. C'était un dessalement qui a été très long puisqu'on était sur une œuvre qui avait 25 cm d'épaisseur. Donc il a fallu pouvoir extraire tous les sels à l'intérieur de l'objet. Pour les tablettes en terre crue, vous savez que si vous imaginez bien que si on met de la terre crue dans un bain, ça va se transformer en boue. Mais grâce à une consolidation préalable avec du silicate d'éthyle, ce que vous voyez avec la pipette, on peut, avec d'autres précautions bien sûr, dessaler par bain les tablettes en terre crue. Donc vous avez, c'est pas cette tablette, mais c'est le même procédé de dessalement. La petite photo en bas à gauche. Même chose pour les pierres, et donc cette stèle des antiquités égyptiennes a été dessalée, et donc vous avez la photo avant-après, vous retrouvez avant et ici après le dessalement et toutes les interventions de restauration. En revanche, pour cette tablette où on avait des cristaux de sel qui ne semblaient pas endommager plus que ça la tablette et qui en même temps maintenaient certains des fragments de la surface, il a été pour l'instant décidé de ne pas toucher à l'objet et donc faire de la conservation préventive en maintenant une humidité relative en dessous de 60%. Même chose pour cet objet. Quand les problèmes ont été mis, ont été constatés, après discussion avec le conservateur, l'objet a été mis dans des conditions adéquates pour qu'il n'y ait plus de variations hygrométriques. Et même chose pour cette sculpture. Et cette sculpture aurait mérité, je vous le montrais tout à l'heure avec les prélèvements en profondeur, on aurait voulu d'abord la dessaler, mais la présence de polychromie et de brocart appliqué nous empêche de faire un dessalement. On pensait à un moment un dessalement ponctuel par compresse, mais ce que l'étude d'hygrométrie de climat nous a montré, c'est qu'il n'y avait que entre juillet et août que l'humidité relative nous aurait permis de faire sécher les compresses posées à la surface de l'objet. Et donc, notre intervention de poser des compresses humides pour en extraire les sels aurait peut-être été pire que mieux. De même, pour cette sculpture, seule une élimination des efflorescences en surface qui évite de maintenir une humidité en surface et une demande d'amélioration des lieux d'exposition a été proposée. Et donc, dans le titre, il était aussi question de sels natifs. Personnellement, dans conservation et restauration des sculptures ou des objets archéologiques, je n'ai jamais vu de sels natifs, ou peut-être dans certaines tablettes, mais ce ne sont pas des sels natifs. Pour moi, ce sont des tablettes qui ont été faites avec de l'eau salée. Et donc, ce qui expliquerait que les petits nodules de sel ici sont vraiment imbriqués dans l'argile et qu'ils ont cristallisé ensuite. Et donc, dans ces cas-là, il est absolument inutile, enfin, il n'est pas pensable de pouvoir les éliminer. Est-ce qu'ils n'ont pas entraîné les problèmes que vous avez vus sur la tablette précédente, enfin les tablettes précédentes que je vous ai montrées. Merci.
Y a-t-il des questions ? Non, mais vous avez toujours une deuxième chance tout à l'heure. Ah si, Véronique, merci.
Moi, je suis curieuse à propos des compresses. Ouais. Comment ça se passe quand on doit dessaler par compresse ?
Comment ça se passe ? Il y a un phénomène qu'on appelle l'advection, qui dit que d'abord, il faut solubiliser les sels, donc il faut remouiller la sculpture. Et ensuite, il faut avoir une compresse dont la porosité est inférieure à celle de la pierre pour que l'eau salée qui est dans la pierre soit attirée par la compresse. Et donc, si les pores de la compresse sont trop grands, les sels ne vont pas être extraits de la pierre. Et il y a tout un travail qui a été fait par le LRMH à l'époque, Véronique Vergès-Belmain, Anne Bourges, sur les compresses. C'était tout un projet européen avec une définition de comment ça s'appelle, de mélange, de formulation des compresses avec des argiles, du sable, des granulométries différentes. Et il y a certaines sociétés qui travaillent pour les monuments historiques qui vendent déjà des compresses avec des porosités différentes. Le seul souci que nous, on a parfois en conservation-restauration, c'est qu'on n'a pas forcément la taille de la porosité des sculptures sur lesquelles on travaille. Donc, c'est un peu du... Voilà, on fait d'abord des essais préalables avec différents types de compresses qui sont soit disponibles dans le commerce, soit on essaye de les mettre en œuvre nous-mêmes.
Et pour...
Oui, alors ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est un travail qui a été fait il y a plus de 20 ans. Donc, à l'époque, tout ce travail sur les compresses n'était pas encore publié. C'était de la pulpe de papier. Et c'était un mélange de différentes fibres de pulpe de papier, là aussi, pour diminuer la porosité de la compresse et être sûr d'absorber suffisamment d'eau, l'eau salée qui était dans la sculpture. Oui, pardon.
La statue est mouillée et on y applique
quelque chose de sec ? Non, de légèrement humide, mais de plus sec que la sculpture. Oui.
Quelque chose de plus sec que la
sculpture. Et l'idée, c'est en fait que, après avoir mouillé la sculpture et solubilisé les sels vont passer dans la compresse et ils vont se cristalliser au fur et à mesure dans la compresse. Et c'est comme ça que vous les extrayez et qu'ensuite, on change les compresses au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait atteint un niveau de dessalement intéressant. Le problème étant qu'avec une compresse, on ne va pas aller très loin en profondeur dans la sculpture et qu'on ne peut pas appliquer ça sur des œuvres qui sont de taille trop importante. Donc, il faut...
Oui, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de celle qui allait très en profondeur sur une statue.
Oui.
Et typiquement, donc, on ne prévoira pas de dessalement par compresse si on a une infestation à 5 cm. Voilà. On sait très bien. Et donc, on n'utilise plus la pulpe de papier pur, puisque ce programme de recherche du LRMH a bien montré qu'en fait, il y avait une énorme désorption d'eau et que les résultats intéressants de conductivité qu'on avait dans les compresses étaient peut-être liés au fait qu'on avait repoussé les sels vers l'intérieur, d'où ces formulations avec de l'argile. Voilà. Sachant qu'il y a plusieurs problèmes avec ces compresses, c'est que quelquefois, elles laissent du dépôt.
Ouais, alors
si on n'a pas nettoyé la sculpture, bon, ça peut être intéressant, mais voilà. Et puis, qu'on peut, quand on a la possibilité de prélever une quantité suffisante, quand même calculer la porosimétrie avec une porosimétrie mercure, mais pour ça, il faut pouvoir prélever. Après, à force de faire des traitements et d'en discuter et qu'il y ait des publications, on sait, par exemple, que le calcaire de Tonnerre, on ne fait plus de porosimétrie mercure dessus, on sait qu'on ne peut pas le dessaler autrement que par bain. Parce que globalement, on sait qu'on n'a aucune compresse qui descend en dessous de cette porosimétrie. Donc petit à petit, on a aussi des réflexes, oui, qui s'établissent. Et quelquefois, on regarde le calcaire, on voit qu'il est visuellement poreux, et on ne se pose même plus la question de savoir si on va pouvoir faire des compresses ou pas, parce qu'on sait que ces compresses au kaolin, elles sont très 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 fines. Donc il y a cet arbitrage qui est fait en fonction des cas de figure pour choisir les traitements. Mais certaines de ces compresses, elles sont extrêmement rigides au moment du séchage avec le kaolin. Donc, il faut aussi que la surface le supporte.
La pierre le supporte, oui. Voilà. Parce qu'après, quand vous voulez enlever la compresse, même si elle contient des sels encore, elle devient très dure. Et l'autre problème de ces compresses avec du kaolin, c'est vu en fonction de la quantité du kaolin, on risque d'avoir un blanchiment en surface. Et donc, c'est pas du tout possible... pour des sculptures, ça peut des fois être possible pour des monuments, parce qu'après il y a peut-être un micro-sablage derrière à faire, mais sur des œuvres comme ça, c'est pas possible. Donc effectivement, on passerait normalement en dessalement par bain, qui peuvent être très longs aussi et dont on ne maîtrise pas forcément non plus le dessalement à cœur quand vous avez une sculpture qui fait 30 cm de circonférence ou plus, enfin d'épaisseur.
Sans parler du fait que certaines sculptures ont reçu des traitements. Donc en fait, si on ne s'en rend pas forcément compte, quand on les baigne, on voit bien que l'eau ne pénètre pas et que ça ne se passe pas très bien. Qu'on n'a pas non plus un bilan électromagnétique sur l'ensemble de la structure. Peut-être il peut y avoir des fragilités internes qu'on n'a pas détectées. Ouais. Donc on n'y va jamais. On dessale par bain quand on n'a plus le choix, parce que le bénéfice, que l'équilibre avantage-risque est en faveur du dessalement. Mais c'est vrai que quand il y a des morceaux, on essaie de les tremper avant, et ça nous est arrivé d'avoir des petites surprises, c'est-à-dire qu'on met un petit morceau de caillou dans l'eau et on voit que pouf, il se sépare en quatre. Donc là, on se dit peut-être qu'on va consolider, sachant qu'on a, par rapport à la consolidation, on modifie quand même le milieu, donc il faut que l'effet hydrophobe du consolidant ait disparu. Il ne faut pas qu'il y ait eu de variation d'humidité pendant la consolidation et après, parce que c'est pire, puisqu'on a modifié le milieu. Donc en fait, on est dans des
équations à multiples inconnues.
Voilà, et puis voilà. Et pour dire que j'ai des collègues qui viennent d'immerger un relief polychromé en pierre de Tonnerre, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on a fait des essais de refixage et de consolidation. Et là, je pense que c'est dans un atelier qui est proche du logement de la restauratrice. Et elle doit passer tous les jours pour voir si ça se passe bien. Et c'est un relief exceptionnel. Et que si on ne faisait rien, là, on allait vraiment tout perdre. Donc ça valait le coup de risquer, le dessalement.
Peut-être que je vous propose de continuer cette discussion pendant la micro-pause qu'on s'accorde, parce que je vous vois passionné par le sujet, pardon, mais on se retrouve à 20, si vous voulez bien. Je suis désolée.
Pas de souci.
On m'a demandé de faire la maîtresse du temps. Merci.